Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 7, on est là jusqu'à minuit et demi, ensuite ce sera la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Supporters marseillais, lillois, si vous avez encore plein de trucs à dire, bah, ce sera tout à l'heure, vous pouvez appeler le 32-16 d'ores et déjà pour prendre rendez-vous. Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, Julien Laurence et Paulo Breitner nous rejoint. Paulo, bonsoir.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Tout comme Johan Crochet. Johan, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, avant qu'on parle de vos matchs, tu voulais parler de Turpin, puisqu'on était sur l'arbitrage juste avant la pub là.
Ouais, bah déjà, François Le Texier, moi je l'ai vu 5 fois cette saison en Coupe d'Europe, parce qu'il a fait 5 clubs italiens, enfin 5 fois des matchs de clubs italiens, il a été à chaque fois excellent. J'en avais parlé d'ailleurs un soir dans l'after après le match Lazio-Bayern, où il a vu beaucoup de caractère, il avait laissé beaucoup jouer, c'était très intéressant. Et Turpin, pareil ce soir, hein, il arbitrait Milan-Roma, et il a beaucoup laissé jouer. Il y a une petite polémique, c'est sur la main d'Abraham dans la surface. Main, en Italie, on dit en Serie A, ça aurait été sifflé. Je pense qu'en Ligue 1, ça aurait été sifflé. Mais ce soir, c'est pas sifflé en Coupe d'Europe. Donc il y a clairement aussi des consignes qui sont très différentes.
Et voilà, et ça, c'est très étonnant. Après, est-ce que les arbitres, quand ils vont en Coupe d'Europe, quand ils font des bons matchs en Ligue des Champions, c'est le niveau au-dessus? Est-ce que quand ils redescendent en Ligue 1, ils prennent un peu le boulard et ils ont une attitude un petit peu hautaine vis-à-vis du match et des joueurs qu'ils arbitrent? Peut-être, ça pourrait être dans la nature humaine aussi de faire ça. Ce serait pas formidable de le faire, mais c'est possible que Le Texier, après avoir fait City Real, si ce week-end il est en championnat dans un Strasbourg-Metz, peut-être qu'il va considérer qu'il arbitre un match de quartier et que ça va pas lui plaire. Je sais pas.
Il va peut-être même se plaindre d'avoir été désigné pour un Strasbourg. Hein.
Pris pour qui? Non, parce que Turpin, il avait ce truc, hein. Ouais. Turpin, il l'a quand il a commencé à faire les matchs.
Connaissant la qualité de l'accueil des arbitres à Strasbourg, je pense qu'il sera là.
Ouais. Ah ouais? Pourquoi il y a quoi dans sa petite loge? Vous mettez les bretzels? Vous mettez quoi?
Saucisse. Ah, il y a tout. Hein? Il n'y a pas de manteau de fourrure, si tu veux, mais
c'est pas bon pour fourrir après. Choucroute, saucisse.
On va le déléguer. Il court pas.
Ah, le déléguer, mais je croyais que c'était l'arbitre.
Ah, c'est pour l'arbitre aussi que vous faites.
Truc classique, une montre. C'est une blague, bien sûr.
Avec la boîte sur la boîte. Parce qu'en Belgique, ils ne mettent pas les boîtes.
Que les boîtes.
En Belgique, ils ne mettent pas la boîte parce qu'après, il y a d'autres qui collectionnent les boîtes.
Bref. Bon, parlons un peu des matchs parce que Liverpool-Atalanta, il faut quand même qu'on sache ce qui s'est passé. Johan, est-ce que tu es surpris?
Ah bah oui, clairement.
Non, il va te dire, maintenant je peux surpris.
Non, je m'attendais même à 4-0, je suis un peu déçu.
Johan, tu sais qu'il a deux totems dans la vie, c'est l'Atalanta et Sassuolo.
Oui,
là, Sassuolo, comment?
Mais il n'en demeure pas moins lucide quand même. Johan, il n'est pas fou non plus.
Non, c'est une très belle soirée européenne. Alors, moi j'ai adoré l'Atalanta parce qu'ils y vont avec du courage, avec de l'agressivité. Ils jouent là-bas comme ils jouent sur la pelouse de l'Hellas Vérone ou comme ils jouent chez eux contre Sassuolo, par exemple. Une vraie personnalité, des joueurs qui se donnent à fond. Vraiment une équipe qui te fait plaisir sur la scène européenne, une équipe qui te fait jamais honte sur la scène européenne, parce que c'est une des équipes qui, en s'entraînant chaque semaine en Serie A, a joué au niveau européen, avec un niveau d'intensité niveau européen. Et ben, quand elle arrive en Coupe d'Europe, elle est jamais ridicule. En phase de groupe de l'Europa League, elle avait été vraiment très séduisante. Je pense au match contre le Sporting, par exemple. La première mi-temps à Lisbonne avait été incroyable. Et ben là, ils font aussi un grand match. Alors, c'est boursouflé comme score, parce que, enfin, c'est boursouflé. Disons que les trois buts de l'Atalanta peuvent y être, parce qu'il y a aussi beaucoup d'occasions. Il y a Kop Miners en face à face. Il y a Pazalic en tout début de match en face à face aussi. Mais c'est surtout Liverpool qui a beaucoup vendangé aussi. Et il y a le poteau bar d'Eliott, il y a des occasions de Darwin Núñez, il y a des occasions de Cody Gakpo, de Van Dijk. Donc finalement, tout tourne de ton côté ce soir. Et c'est beau parce que t'as tout un peuple qui s'est déplacé, qui s'attendait pas à ça. Il faut rappeler où était l'Atalanta il y a 7-8 ans, c'est-à-dire nulle part. Un club de milieu de tableau en Serie A. Et aujourd'hui, t'en es à gagner 3-0 à Anfield, et ça c'est vraiment chouette. Et au niveau émotion, on sentait un Gasperini en après-match.
Oh, à la fin du match, j'ai l'impression qu'il en revenait pas.
Mais en fait, je l'ai jamais vu aussi souriant.
Deuxième victoire, hein.
Ouais, il avait gagné en phase de groupe de Ligue des Champions à 2-0. Exactement. Bah, ils avaient pris 5-0 exactement, par contre à Bergame, hein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est vrai que faire 100% à Anfield, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs.
Ah, ils vont se qualifier là. Hein. Donc, ils peuvent même viser le titre. Dans ce...
Johan, un mot sur un joueur que tu aimes beaucoup, dont tu as beaucoup parlé très souvent, c'est Scamacca.
Ouais.
Parce que où il en est là? Parce que entre le moment où on dit l'équipe d'Italie, le PSG qui est déçu.
Il n'a jamais été dingo. Après, on ne lui a pas complètement fait confiance non plus, mais bon.
Non, mais il y a plein de trucs.
Parce que moi, j'aime le profil, parce que c'est un profil différent des autres attaquants qu'on peut voir aujourd'hui.
Ouais. Non, mais il a pas été dingo en équipe d'Italie, mais Daniel, toi qui connais bien le championnat italien, la sélection nationale, des numéros 9 qui n'ont pas été dingo en équipe d'Italie, l'histoire de la nationale est faite de ça. Après, moi, je l'aime beaucoup parce que il a le gabarit, on va pas dire que c'est un joueur extrêmement technique, mais il a quand même une belle technique. Il a une qualité de frappe qui est très très rare, je trouve, chez les numéros 9 maintenant, qui savent faire de plus en plus de choses. Mais des frappes de loin qui peut te mettre sous la barre de 30 mètres, des reprises de volée qui peut te claquer comme ça, coup de pied, pied droit, pied gauche. Là, ce soir, il marque pied droit, alors bien aidé évidemment par le gardien de Liverpool, mais le pied gauche sans contrôle, demi-volée dans la surface, c'est beau. Et en plus, moi, ce que j'aime chez lui, c'est que j'en parlais avec des collègues italiens, il a des espèces de gestes à la Zlatan, une espèce de coordination parfois. T'as l'impression qu'il est en total déséquilibre,
mais il est capable parfois de récupérer. Il ressemble pas aussi un peu à Giroud?
Oui, il y a des choses qui se rapprochent aussi. Il est moins bon dans la liaison avec les autres joueurs que Giroud dans ce jeu de pivot. Giroud est particulièrement bon et Scamacca est pas à ce niveau-là. Mais tu sais, sur les têtes en pleine extension, sur des reprises de volée au-dessus de la poitrine, sur des contrôles aériens.
Giroud le fait, ça, ce genre de choses-là, il fait aussi.
Il a cette gestuelle, je trouve, qui par instant rappelle Ibra. Alors, avec tous les écarts de niveau, évidemment, qu'il y a entre Ibra et Scamacca encore aujourd'hui, hein. Mais je trouve que là, il est en train de prendre une belle dimension. Il y a toujours des petites blessures qui traînent à droite, à gauche. Il faut qu'il fasse attention à ça. Mais vous savez, pour l'Euro, il y a deux joueurs. Retegui a marqué des points lors de la dernière trêve, puisqu'il a marqué, dans les matchs amicaux. Mais moi, j'en parlais encore l'émission italienne que je fais. Et pour moi, je partirais avec Scamacca titulaire parce qu'il t'offre énormément de choses. Et il a un profil qui est très, très embêtant pour les défenses adverses.
Alors, Julien, comment tu expliques cette déroute de Liverpool?
Catastrophique, vraiment. Klopp a dit après le match, il n'y avait rien de positif du tout. Je sais que Yo a essayé d'être un peu positif par rapport aux actions ratées, effectivement. Le double poteau transversal d'Eliott, si elle rentre, peut-être que l'histoire est différente, mais ils l'ont trouvé apathique. Par moments, ils ont eu beaucoup le ballon sans trop en faire ou sans pas savoir quoi en faire. Il avait fait tourner beaucoup, hein, parce que ça a été sur le banc, par exemple. Il a dû faire rentrer la cavalerie à la pause et ça n'a pas forcément changé beaucoup non plus. Je sais pas, c'est bizarre, ils étaient invaincus depuis 30 ans.
Après, Julien, la question, c'est toujours pareil avec les gros clubs anglais. Quand il y a eu 1-0 au 1-0, en plus, quand tu regardes pas vraiment le match, parce que nous, on était sur les autres, donc tu te rencardes un peu simplement sur le score, tu dis, bon, il a fait beaucoup tourner. À 2-0, tu dis, ouais, bon, allez, et la baston pour le titre de champion est tellement importante qu'on a bien compris qu'il bazardait la Coupe d'Europe. Puis à 3-0, tu dis, bon, bah merde, si vraiment il y a la théorie du cadeau ou de on n'a pas fait au sérieux et tout, tu dis, merde, c'est con, ça tombe jamais sur les clubs français, ce genre de cadeau. Bon, au final, est-ce que ça ressemble à ça ou pas du tout? Parce que ça enlève du mérite à l'Atalanta qui a fait un très gros match. Mais on sait que les gros clubs anglais, cette C3, ils s'y intéressent pas des masses non plus. Donc bon, c'est un peu bizarre, quoi.
Mais n'oublie pas que c'est les dernières semaines de club.
De club, ouais. Et que tout le monde a fantasmé sur la totale, quoi.
Ouais, mais lui, il veut tout gagner.
Bah, c'est ça, c'est ce que je te dis.
Ouais. En Coupe d'Angleterre. Oui, mais non, pour te dire que je pense qu'elle. Elle avait de l'importance, cette Europa League, même si c'est que l'Europa League. Je pense qu'il voulait vraiment aller la gagner. Il voulait aller jusqu'au bout pour Klopp, notamment, faire un doublé championnat Coupe d'Europe, par exemple. La Coupe d'Angleterre, ils ont perdu contre United dans un match qu'ils auraient dû gagner. Là, c'est différent ce soir. Hein. Cette saison, je les ai pas vraiment vus se faire balader comme ça. C'est rare pour eux de perdre 3-0 à domicile. Vraiment, si tu y penses, il y a que le City de Guardiola qui arrive à ce degré-là de domination ou de réussite ou de contrôle, ou on appelle ça comme on veut. Donc c'était pas ça. Et le problème, cette équipe, c'est une équipe qui marche à la dynamique aussi. Et je pense que ce soir, tu te fais quand même humilier à domicile. T'avais des supporters qui partaient à la 75e minute. Hein. Et je pense que pour le match du week-end, puisque eux aussi ont un match dimanche, Il va falloir se rattraper, bien sûr, et puis c'est des compétiteurs, mais ça fait quand même tâche.
Citer Guardiola, on peut rappeler quand même la phrase de Guardiola, affronter la Talenta de Gasperini, c'est comme aller chez le dentiste.
et un mot sur le fait d'avoir autant fait tourner, parce que est-ce que là c'est pas quand même c'est ok tu perds, mais est-ce que tu dois pas t'en prendre déjà toi-même par rapport à ça, et puis même par rapport à la compétition, c'est quand même dingue.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis, mais en plus, il avait déjà fait tourner aussi.
En championnat, il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça, à force de faire tourner quelque part, est-ce que tu dérègles pas là ton truc? Parce que je regarde dans l'équipe, c'était quoi? C'était la moitié de l'équipe au moins.
Ouais. Plus, après, hein. Alors après, ça dépend. Ça reste une équipe compétitive hein, sur le papier.
Oui, il y a Gakpo, il y a Nunez, effectivement.
Tu vois, c'est vrai que Luis Diaz a été peut-être le meilleur joueur sur les quelques dernières semaines là. Que Salah était un peu moins bien, donc tu fais tourner pour Salah, tu reposes un peu Diaz parce que le gars, c'est une pile du Racel, il n'arrête pas de courir dès qu'il joue. Je sais pas, au milieu de terrain, McAllister, ça avait été très bon, Endo, c'était pas mal aussi. Donc, j'ai un peu de mal à l'expliquer, il faudrait que je regarde le match demain. Mais en tout cas, c'est un gros coup d'arrêt quand même. Hein. 34 matchs à domicile sans défaite, et là, tu prends comme ça une fessée, c'est pas bon.
Alors, Johan, il va avoir une finale 100% italienne.
Alors, avant de parler de Milan-Roma, j'aimerais que Julien est aussi concerné par Leverkusen-West Ham. Polo, c'était un match un peu fou qui s'est débloqué à la fin.
Fou? Non, c'est pas un match fou, c'est le scénario attendu. C'est-à-dire qu'il y a une équipe
qui joue au
foot. Il y a une équipe qui joue au foot et qu'il y a une autre qui a une honte pour le football.
Et Polo, qu'est-ce qu'on lui a mis à Julien Laurence ce soir?
Mais oui, non, mais à la rigueur, je veux dire, le problème de West Ham, c'est le problème de Julien et de ceux qui suivent la première ligue. Le scénario, il est prévu. On savait très bien que la possession est du côté de Leverkusen. West Ham a décidé de mettre le bus. Et il y a un
73%.
73%, 33 occasions à une. Mais c'est pas grave, c'est
genre
génial. Ils ont un tir. Et en plus, alors c'est à la 10e minute.
On
et en fait,
que
y a un seul piège.
A du mal à terminer ses actions quand même.
Ouais. Non, c'est pas ça la question.
Ah bon?
Là, ça se trouve. Mais regarde les matchs de Bundesliga, tu vas voir comment ça fonctionne.
Je te l'explique, Gilbert,
c'est assez facile. Tu as la possession, tu as un piège à éviter. C'est les contres, de faire une gaffe, et c'est ce qui a failli arriver à la 10e minute après le duel entre Antonio et Jonathan Tah. Antonio réussit à passer à Kudus, Kudus écrase son ballon, ça continue à 0-0. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comme Leverkusen a toujours le ballon, en face, ça s'énerve, on met des coups, etc., et on se prend des jaunes. Leverkusen fait la même chose en Bundesliga, et qu'est-ce que ça veut dire? Paqueta ne sera pas là au match retour, Emerson ne sera pas là au match retour. Ça a l'air de rien, ça change pas le score, mais c'est ce qui se passe dans tous les scénarios. Et ensuite, on continue à travailler l'adversaire systématiquement. On fait rentrer les nouveaux entrants Hoffman et Boniface à la fin de la rencontre. Boniface. Et c'est eux qui marquent les deux dans les 10 dernières minutes. Et encore une fois, un but dans les arrêts de jeu. Ce scénario, on l'a vu plusieurs fois en Bundesliga. On l'a vu en 8e de finale contre Karabakh. C'est systématiquement comme ça. Et en fait, il y a quasiment une maîtrise totale de Leverkusen. Le fameux contrôle que prône Xabi Alonso à longueur de temps. Ce match, il n'y a pas de match. C'est-à-dire que 2-0, c'est le scénario idoine. Mais même à 0-0, il ne fallait surtout pas perdre ce match, parce qu'il y a une telle différence de possession, de niveau. C'est comme si tu joues le Barça de l'époque. Tu joues le Barça de l'époque et tu réussis à tenir le 0-0 en faisant le but, c'est génial. Bah ouais, mais il faut le faire deux fois ça. Et en fait, ce soir, tu n'as qu'une équipe sur le terrain. Et je trouve ça dommage. On a déjà souvent parlé avec Julien, parce que moi, cette équipe de West Ham, quand tu vois les joueurs qu'ils ont, t'as pas le droit de jouer comme ça. Kudus, on se dit posé il y a quelques semaines qu'il allait comment il fallait renforcer les Leverkusen l'année prochaine. Ben, quand tu vois un joueur comme Kudus, mais le pauvre, il doit s'enquiquiner, je reste poli, depuis un an, depuis qu'il est arrivé à West Ham, c'est pas possible de jouer comme ça. Maintenant, encore une fois, c'est pas le problème de Leverkusen. Donc, le scénario, il est génial. Et maintenant, West Ham va être forcé de jouer un petit peu à domicile. Je sais qu'ils sont très forts, mais c'est la meilleure façon pour se faire contrer par Leverkusen, donc voilà quoi.
Si Leverkusen gagne cette Coupe d'Europe, le quatrième français sera automatiquement qualifié, vu que Leverkusen est assuré de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine maintenant, donc voilà. Ouais. Un mot sur West Ham, Julien, avant de te laisser?
Ouais, ça, il me fatigue, moi ça me fatigue, c'est du football préhistorique, ça ne m'intéresse pas du tout. Je l'ai dit ça assez souvent, mais j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils s'en aillent, parce que j'en peux plus de ce football. Alors, t'aurais pu jouer et perdre aussi 2-0, t'aurais pu jouer et perdre 3-0, mais au moins t'aurais joué. Là, c'est pas possible. Moi, je me mets à la place des supporters de West Ham. C'est pas mon club, hein, West Ham, mais je me mets à leur place. Et c'est pas là, bon là c'est Leverkusen, c'est une très belle équipe, voilà, qui fait une super saison, 42 matchs sans défaite, tout ce qu'on veut, mais il fait pareil contre Bournemouth, il fait pareil en championnat contre des équipes qui sont largement à la portée de West Ham. Moi ça, voilà, ça me fatigue, donc je suis bien content, désolé pour les supporters de West Ham qui nous écoutent, je suis bien content qu'ils en aient pris une petite ce soir, et sans Paqueta, à mon avis c'est impossible de revenir, donc voilà,
il doit bien s'amuser Paqueta, cette équipe a bien fait d'aller là-bas.
Par contre, ben oui, Kudus aussi, Bowen aussi, Alvarez aussi, enfin voilà, à un moment c'est plus possible quoi.
Merci Julien, merci Polo.
Ciao ciao.
Merci les gars.
Johan, reste avec nous encore pour nous parler dans quelques instants de Milan-Roma. Et puis l'actu du jour et Christophe Dugarry qui donne son avis sur le PSG, c'est tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Minuit 23, dans moins de 10 minutes, la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Pour l'instant, on conclut notre soirée Coupe d'Europe avec Laurent Gautreau, avec Daniel Riolo et Johan Crochet. Donc, le match Milan-Roma, il faut que tu nous racontes ce qui s'est passé.
Ouais, c'était un match très intéressant parce que cette équipe de la Roma est quand même en très très grand progrès depuis l'arrivée de Daniele De Rossi. Progrès dans les résultats déjà, premièrement, mais progrès aussi dans le jeu. On voit une équipe de la Roma vraiment transformée, très différente, très appliquée au niveau ballon, ce qu'elle ne faisait pas évidemment avec son prédécesseur. Et puis le Milan a cette claire envie quand même de gagner cette C3. Et bah, bizarrement, j'ai du mal à comprendre comment Milan peut entamer un match de cette façon-là, un quart de finale aller à domicile contre la Roma. Ils se sont fait manger pendant 70 minutes à peu près, mais quand je dis manger, c'est qu'il y a des morceaux de match, c'était un taureau sur le terrain. Les joueurs de la Roma étaient très à l'aise avec le ballon, bougeait beaucoup, faisait des triangles, faisait des circuits de passe préparés, et en fait il se baladait à San Siro, et c'est vraiment incompréhensible de voir Milan commencer le match, et puis c'est ça a duré longtemps hein, puisque je dis 70 minutes, c'est une grosse heure de jeu comme ça avant que dans les 20 minutes avec les changements de Pioli, notamment l'entrée de Chukwueze qui a fait du bien, Okafor a été intéressant aussi, ils ont vraiment là poussé et ils auraient clairement pu égaliser, pu ou dû, chacun choisira le mot qu'il veut, mais parce que Giroud à 4 mètres du but fait une reprise du pied droit sur la barre, parce que Adli fait un centre-tir sur la barre, et il y a eu des opportunités clairement de marquer pour Milan en fin de match, mais ils se font punir pour leur attitude, leur approche du match pendant 70 minutes qui était catastrophique, alors que la Roma de son côté a vraiment pris les commandes du jeu, a installé son style de jeu, par moments avait beaucoup le ballon, par d'autres moments bah simplement contrôlait, voilà, laissait le ballon au Milan, et comme ils en faisaient pas grand-chose, bah c'était assez facile de faire de l'individuel sur certains joueurs. Je pense à Leao qui est passé à côté de son match, qui a été sifflé par une partie du public quand il a été remplacé, avant d'avoir son nom scandé par la courbe à soude, donc le virage des ultras de Milan pour rattraper un peu la chose. Théo a pas été bon non plus, Giroud a pas été bon, Pulisic a beaucoup tenté mais a pas été très bon. En fait, il y a très peu de joueurs de Milan qui ont été bons. Alors que du côté de la Roma, vous avez même un mec pour vous, voilà, vous montrer le travail que fait De Rossi. Zeki Celik a jamais été aussi bon à Rome que depuis que De Rossi est arrivé. Et ça fait plusieurs matchs qu'il fait au poste d'arrière droit, évidemment.
Ah bah si, avec Mourinho, il avait pas le droit de monter, ce qui est quand même une de ses grandes qualités, forcément.
Ouais, et puis quand on le laissait jouer aussi, ouais. Parce que c'était pas souvent. Mais là, il fait, par exemple, ce soir, il fait un très bon match, Celik. Et c'est pas le premier qu'il fait depuis que De Rossi est arrivé. Donc même avec des joueurs, parce que tout le monde, on en a parlé hein, longtemps, même avec toi, Daniel, la qualité de l'effectif, vous aviez des doutes, etc. Moi, je disais vraiment, il y a un bel effectif à la Roma. Il y a vraiment des bons joueurs, quoi. Et même avec des joueurs moins forts que des Pellegrini, des Dybala, même des El Shaarawy qui est un bon joueur d'appoint et quand il est titulaire fait toujours le taf, mais des Celik, des Karsdorp, même un Spinazzola est en train de revenir à un bon niveau, etc., alors qu'il était quasiment mort avec Mourinho. Bah le travail de De Rossi est intéressant. Alors attention, ceux qui pensent que la Roma est déjà qualifiée, j'ose penser que Milan ne fera pas deux matchs consécutifs de Coupe d'Europe de ce niveau-là, d'un si faible niveau que ça. Mais ça nous promet encore un beau match retour, et comme la Roma est une équipe plutôt joueuse et que Milan va devoir jouer un petit peu plus et qu'elle a quand même malgré tout des sacrées individualités du côté de Milan, on peut avoir encore un match retour de très bonne facture pour cette Europa League.
Merci Johan.
Merci à vous messieurs.
Bonne soirée, il nous reste quelques minutes pour écouter Christophe Dugarry. Écoutez d'abord ce que Duga a dit tout à l'heure dans Rotten sans flamme concernant Kylian Mbappé.
On a le droit de rater des matchs, on a le droit de rater des passes, on a le droit d'être nul. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le comportement, l'attitude qu'a eu ce garçon hier est tout simplement et tout bonnement scandaleuse. C'est un scandale pour le foot, c'est un manque de respect, c'est une trahison pour ses supporters dans un stade qui était chaud bouillant, pour ses partenaires, pour les gens qui lui font confiance depuis des années, pour les gens qui le payent, pour les gens qui l'apprécient, et pour le foot, pour un quart de finale de Ligue des Champions. Mais tu as craché au visage de la Ligue des Champions, un quart de finale que soi-disant tu rêves de gagner avec ton club.
Écoutez-le maintenant sur Luis Enrique. On y va.
Voit ce qui se passe à l'entraînement, il connaît ses joueurs, il le voit mieux que quiconque, et il a mis l'équipe qui pensait être la meilleure pour contrer ce Barça-là. Eh bien écoute, je pense que les joueurs ont une énorme responsabilité, mais une nouvelle fois, Luis Enrique nous a enfumé, il a un boulard démesuré. Une nouvelle fois avant le match, il nous expliquait que le Barça, c'était lui. Voilà, l'ADN du Barça, c'est lui.
Ouais, ce qui est bien.
Mais retourne-y, retourne-y aussi, il n'y a pas de problème.
Voilà, il est énervé, du gars. Bon, on a une minute pour une réaction, les gars. Je sais pas qui veut réagir. Est-ce que disait Daniel hier? Donc peut-être que Flo.
Moi, ce qui me paraît hallucinant depuis hier, c'est de voir que on dédouane à ce point les joueurs pour s'en prendre uniquement à Luis Enrique. Tu as un gardien aveugle, une défense centrale de Wish et ton meilleur joueur qui a décidé de pas jouer ce match-là. Et après, ok, c'est de la faute de Luis Enrique. Alors il y a des.
Les joueurs ont une responsabilité énorme.
Il l'a dit aussi. Non mais Luis Enrique.
Qui a décidé de faire jouer le petit Beraldo? Personne pensait qu'il jouerait ce match-là, Beraldo.
Bon, d'accord. Non, mais dans ce cas, si tu veux, que Luis Enrique ait toute la responsabilité, ok, moi je pense que.
Personne n'avait été bon à part Vitinha et Nuno Mendes.
Il a une responsabilité donc, qu'il a rectifié lui-même. Contrairement au match de Newcastle, par exemple, qui pour moi était le vrai non-match de Luis Enrique, la défaite à Newcastle, il a rectifié. Je dirais même trop tard. Il aurait dû rectifier à la 30e plutôt qu'à la 45e. Mais il a rectifié. Ok.
Ah bon?
Oui, il a rectifié. C'était mieux. Ils ont renversé le match. Mais qu'après tu prennes un but parce que Donnarumma il fait des passes à l'adversaire et il sort pas sur les corners. Bon, maintenant ils ont perdu 3-2, notamment à cause de ces erreurs de Donnarumma. Et on dit que tout est acheté et que tout est de la faute de Luis Enrique. Je pense que c'est une erreur absolue d'analyse du match.
Ce qui est de la faute d'un entraîneur, c'est d'analyser les forces et les faiblesses de tes joueurs et de les faire jouer dans un dispositif et en utilisant les qualités des uns et des autres. Et je pense que ce qu'ils leur demandent, ils ne sont pas capables de le faire. Et je pense qu'il a effectivement, comme dit Christophe, un boulard qui est surdimensionné. Et que ça a toujours été, c'est l'histoire de sa vie, c'est lui qui est comme ça.
Mais je pense
et
aussi que le passage raté de Dugas avec lui à Barcelone porte aussi beaucoup sur le jugement qu'il porte à Luis Enrique.
Manu, la même chose. Tous les gens qui l'ont approché en Espagne, c'est un mec qui se fait tailler comme c'est pas permis.
Mais bien sûr. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit le tailler?
Allez, c'est fini.
On a déjà dépassé notre temps. Bon, c'est tout.
Pour conclure, vous dire.
La situation pour Christophe arrive à dire ça entre Mbappé et Luis Enrique, qui effectivement sont tous les deux à la ramasse. C'est néanmoins encore et toujours, t'as changé l'entraîneur, t'as changé les joueurs, et on arrive au mois d'avril, au moment où arrivent les gros matchs, avec, quoi qu'il en soit, un problème qui regarde l'étage du dessus. À savoir la présidence, qui fait que tu te retrouves dans des situations aussi inextricables que celle-là, avec un joueur au bord de la crise de nerfs qui a tout lâché, et un entraîneur qui a pété le carafon. Voilà, ça, c'est toujours le même problème, la direction.
Je vous signalais hier qu'il y avait eu des saluts nazis et des gestes racistes dans le parcage du Barça. Ils se sont fait effectivement attraper, deux supporters du Barça, donc attrapés par la police hier soir. On termine par Survivor.
L'Afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Plus que 6 joueurs parmi les membres de l'After. 1486 paires sur Winamax, toujours en course. Beaucoup de monde joue Rennes ce week-end. Rennes qui reçoit Toulouse. Toi, t'es déjà éliminé. Jérôme Thomas, Gilbert Bribois, Pierre Dorian, Kevin Diaz.
Je serai votre correspondant sur place.
On va se qualifier. Thibaut Jagrande, Simon Dutin, je vous lance. Qui va à Metz? On verra jeudi qui survit. Salut les gars, la Libre Antenne est là. Dans quelques instants, Oussem Loussaïef et Nico Villas. Bonne nuit à tous et à demain soir au Trianon pour ceux qui viennent.
RMC, l'After Foot.